Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, bien chers amis, nous commençons aujourd'hui le chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Marc. Donc nous commençons maintenant un nouveau fichier, le fichier qui contient les chapitres 6 à 10. De l'Évangile selon Saint Marc à la page 1, avec les versets donc 1 à 6, et du chapitre 6 de Saint Marc. Nous irons un peu plus vite sur certains passages, encore une fois parce que l'Évangile de Saint Marc est moins été commenté que les autres grands évangiles, notamment parce qu'il y a beaucoup de passages qui ont déjà été illustrés dans d'autres évangiles synoptiques, donc soit dans Saint Matthieu, soit dans Saint Luc. Et donc, les pères ne répètent pas des choses qu'ils ont déjà expliquées. Saint Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. « Étant sorti de là, Jésus alla dans son pays et ses disciples le suivaient. Le jour du sabbat étant venu, il se mit à enseigner dans la synagogue et beaucoup de ceux qui l'entendaient, étonnés de sa doctrine, disaient « D'où lui viennent toutes ces choses ?» Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et d'où vient que de telles merveilles se font par ses mains? N'est-ce pas là le charpentier, fils de Marie, frère de Jacques, de Joseph et Jude et de Simon, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici avec nous? Et se scandalisaient à son sujet. Et Jésus leur dit, un prophète n'est sans honneur que dans sa patrie et dans sa maison et dans sa parenté. Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit un petit nombre de malades en leur imposant les mains. Il s'étonnait de leur incrédulité, et il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Donc j'ai déjà expliqué que le terme de frère et de sœur qu'on trouve dans les évangiles n'a pas du tout le même sens que le mot français de frère et de sœur. Frère et sœur, dans l'univers araméique, donc la langue de notre Seigneur Jésus-Christ, les frères et sœurs sont les membres de la parenté, tout simplement. Tous les cousins et cousines étaient appelés les frères et sœurs. Donc il ne faut pas du tout, s'étonner de ce terme. Les protestants, qui ne ratent pas une occasion de critiquer notre Seigneur, et l'Église catholique prétendent que c'est la preuve que la très sainte Vierge Marie a eu d'autres enfants après avoir eu notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui est complètement faux. Encore une fois, la très sainte Vierge Marie est toujours vierge avant, pendant et après la naissance de notre Seigneur. Alors, Saint Jérôme nous dit que Jésus est appelé le fils du charpentier, mais de ce divin charpentier qui a fait l'aurore et le soleil, c'est-à-dire la première et la seconde église, l'église juive et l'église chrétienne, qui sont figurées dans la femme et la jeune fille guérie par notre Seigneur. Donc, les pères font donc une comparaison entre le charpentier terrestre qui construit des tables et des chaises, par exemple, ou des charpentes à partir du bois qui se trouve ici-bas, avec le charpentier céleste qui a construit à partir de rien l'univers et qui nous entoure. N'oublions pas que le charpentier, même très doué, ici-bas, elle est incapable de créer quoi que ce soit. Il va faire quelque chose. Il va utiliser un matériel préexistant, du bois par exemple, pour faire quelque chose à partir de ce bois. Mais il n'y a pas de création pure. Parce que créer, ça veut dire fabriquer ex nihilo, à partir de rien. Dieu seul est capable de créer. Donc quand on parle, utilise le mot créer pour quelque chose de fabriqué par l'homme, c'est une façon de parler et c'est une erreur théologique. L'homme ne peut rien créer. Alors notons que notre Seigneur Jésus-Christ est méprisé déjà par les gens qui l'entourent. Il répète bien, il va insister sur le fait qu'un prophète n'est sans honneur que dans sa patrie. Voilà le sens mystique donné par les pères. Jésus est l'objet du mépris dans sa famille, dans son pays, c'est-à-dire au milieu du peuple juif. Il ne fait parmi eux qu'un petit nombre de miracles pour qu'il ne soit pas entièrement excusable. Mais il fait tous les jours des miracles plus fréquents et plus considérables au milieu du peuple des gentils, miracles qui ont moins pour objet la guérison des corps que le salut des âmes. Donc, chez les juifs, Dieu va faire surtout des miracles qui vont regarder la guérison des corps. Chez les gentils, au contraire, donc chez les juifs, notre Seigneur Jésus-Christ va surtout faire, encore une fois, des miracles corporels, alors qu'au contraire, chez les gentils, il va beaucoup plus faire des miracles spirituels. Pourquoi ? Parce que les gentils, justement, ont une ouverture d'esprit que n'avait pas le peuple juif de l'époque. Le peuple juif de l'époque était tombé en gros dans l'orgueil à cause de toutes leurs prophéties. Ils se considéraient, ils étaient effectivement dans l'Ancien Testament le peuple élu, et se considérant le peuple élu, bien, ils avaient une espèce de mépris pour tout ce qui n'était pas le peuple élu. Au contraire, le peuple des gentils, je vous rappelle, sont les non-juifs, le peuple des gentils, n'ayant rien reçu, ne se glorifiait pas de quelque chose qu'il n'avait pas reçu. Et donc, il va y avoir un transfert, même si les choses ne sont pas acceptées du tout dans le monde moderne, il y a un transfert du peuple juif au nouveau peuple élu, qui est le peuple des catholiques. Cela n'autorise évidemment en aucun cas de tomber dans l'antisémitisme. J'ai déjà expliqué, je ne sais pas combien de fois, que l'antisémitisme, c'est-à-dire être opposé aux juifs parce qu'ils sont juifs, est condamné par l'Église. Cependant, il faut comprendre que le peuple juif, alors qu'il avait été préparé de façon extraordinaire par toutes les prophéties de l'Ancien Testament, comme ils ont refusé notre Seigneur Jésus-Christ, et notre Seigneur Jésus-Christ va aller chercher un autre peuple pour les remplacer. C'est le peuple des catholiques. Il faut aussi bien comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa race humaine, était juif. Donc, l'humanité, jointe à la divinité qui descend sur l'autel, est une humanité juive. Il ne faut pas oublier ça. Notre Sainte Vierge Marie, que je prie tous les jours en récitant mon rosaire, était une femme de race juive. Donc, on n'a absolument pas le droit, en tant que catholique, d'avoir un mépris pour la race juive. Mais en même temps, il faut avoir le courage de reconnaître que le peuple élu de l'Ancien Testament, à cause de son déicide, ayant tué notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, va perdre cette primauté et va être remplacé par un nouveau peuple élu. Et ce peuple élu, c'est le peuple des catholiques. Alors attention, je vous l'ai déjà expliqué souvent, mais j'insiste sur ces choses-là parce que on entend beaucoup de bêtises sur ce sujet dans le monde de la tradition, à cause de l'orgueil, surtout en France. Il ne faut pas oublier que nous ne gardons la foi que par une grâce, un signe du bon Dieu. Et que sans la grâce du bon Dieu, je suis parfaitement capable de faire les mêmes bêtises que les juifs, c'est-à-dire moi aussi d'abandonner la foi en notre Seigneur Jésus-Christ et finir par croire davantage en l'homme que de croire en Dieu. Et donc, d'être abandonné par notre Seigneur Jésus-Christ. Si notre Seigneur Jésus-Christ a abandonné, d'une certaine façon, le peuple élu de l'Ancien Testament pour choisir un autre peuple élu, eh bien, si je tombe dans l'orgueil, le bon Dieu pourrait très bien faire la même chose avec moi et aller chercher un autre peuple élu. On voit très bien aujourd'hui à quel point notre Seigneur Jésus-Christ, justement, va chercher de plus en plus des gens qui ne viennent pas d'un milieu traditionnaliste. C'est quelque chose de difficile à comprendre, mais c'est un fait. Je vais donner un exemple qui est peut-être un petit peu spécial, mais moi ça m'a beaucoup frappé. J'habite dans un petit village, un petit hameau, Padiès, près d'Albi, à la frontière entre le Tarn et l'Aveyron. Et c'est des pays, des anciennes régions très catholiques. Il y a des croix partout, mais les gens ont pratiquement tous perdu la foi. Et dans le milieu agricole dans lequel qui m'entoure, la plupart des gens ici sont des agriculteurs, mais personne ne s'occupe du brouillon, le brouillon s'en fiche complètement. Et donc, il n'y a aucune possibilité, sans la grâce du bon Dieu, de conversion de ces gens-là vers la véritable Église. Et en fait, on se rend compte que les gens autour de nous sont des païens complets, alors qu'au contraire, le bon Dieu va aller chercher parfois des gens très très loin pour les amener ici et trouver ici, non pas l'abbé Lafitte, mais trouver ici tout simplement la foi catholique que prêche l'abbé Lafitte. Il y a quelques jours, le 29 décembre, j'ai vu comme ça faire un mariage, un baptême d'abord d'une jeune chinoise qui est venue se faire baptiser ici. Ça m'a beaucoup frappé, justement, j'ai déjà expliqué cela dans un sermon, mais ça m'a énormément frappé, je vous le donne parce que je pense que c'est utile pour nous maintenir dans l'humilité. Ben, elle a fait tout le chemin depuis la Chine pour pouvoir être baptisée ici et après se marier ici. Eh bien, c'est quand même ahurissant de voir que des gens ont fait 20 000 km pour pouvoir venir être baptisés ici, trouver la foi ici, alors que les gens qui habitent juste à côté, quelques centaines de mètres de chez moi, se moquent complètement de ma présence ici. Comme quoi, le bon Dieu se sert de tout. Et cela doit nous maintenir dans l'humilité. Sans la grâce du bon Dieu, je suis capable de faire les mêmes bêtises que les autres. Victor d'Antioche, un père, dit... Deux choses sont requises pour obtenir la guérison, la foi du malade et le pouvoir de celui qui va guérir. Si l'une de ces deux choses manque, la guérison n'aura pas lieu. On voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ va faire très peu de miracles dans cette zone dans laquelle il est là, à cause du manque de foi des gens qui l'entourent. Rappelez-vous qu'à chaque fois que quelqu'un vient pour demander le miracle, un miracle quelconque, une guérison physique, par exemple, notre Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois, on voit donc très bien qu'à chaque fois que notre Seigneur Jésus-Christ fait un miracle, il demande, il exige d'abord la foi. Est-ce que vous croyez que je peux le faire ? Seigneur, j'ai la foi, mais augmentez ma foi. J'ai l'espérance, mais augmentez mon espérance. J'ai la charité, mais augmentez ma charité. Et notre Seigneur, lorsqu'il voit cette vertu d'humilité qui amène à la foi en quelque sorte, et bien à ce moment-là, notre Seigneur Jésus-Christ va faire le miracle. Là, au contraire, il est dit qu'il ne put faire aucun miracle ou très peu de miracles dans cet endroit où il était à cause du manque de foi et il s'étonnait même de leur incrédulité. Vous voyez, on voit très bien que vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ enseigne toujours la même chose. Toujours de la même façon. Et il y a parfois des gens qui n'écoutent pas. Et des gens qui écoutent. On le voit très bien. Vous en pensez sûrement, c'est la période de Noël. C'est très manifeste avec, par exemple, la nativité de notre Seigneur. On voit les rois mages qui viennent. On voit les bergers qui viennent. Mais, au contraire, le roi Hérode, alors qu'il sait très bien que la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ a été annoncée par les prophètes, il sait très bien que le roi des rois va sortir de la ville de Bethléem, mais malgré toutes les preuves qui lui sont apportées, l'accomplissement des prophéties par la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement il ne va pas croire, mais il va même essayer de tuer notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, donc, c'est là peut-être un des plus grands mystères du christianisme, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, est tout puissant, mais en même temps, il respecte notre libre arbitre. Et si je n'accepte pas justement de m'humilier devant cette foi que le bon Dieu me propose, eh bien je passe à côté. Et donc il ne faut pas croire que notre Seigneur Jésus-Christ va faire comme ça des miracles tout le temps et que tout le monde va se convertir. On le voit très bien aujourd'hui.
Parfois, les gens me disent, mais pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ ne fait pas des grands miracles pour convertir tout le monde? Et même si notre Seigneur Jésus-Christ faisait des grands miracles pour convertir tout le monde, les gens qui ne veulent pas se convertir ne se convertiront jamais. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, même quand il agit comme thaumaturge, eh bien, respecte notre libre arbitre et va laisser les gens qui refusent justement de s'humilier, il va les laisser dans leur orgueil. La première condition pour trouver notre Seigneur Jésus-Christ, c'est s'abaisser. S'abaisser. Les pères de l'Église font remarquer que quand on rentre dans la grotte de Bethléem, il faut s'abaisser, il faut se mettre à genoux. Quelqu'un qui refuse de se mettre à genoux devant notre Seigneur Jésus-Christ ne recevra pas le don de la foi, c'est absolument évident. Et donc il faut la présence physique, c'est ce que disent les pères, la présence physique de notre Seigneur Jésus-Christ qui a le pouvoir de guérir ne suffit pas. Il faut associer à ce pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ de faire des miracles, il faut associer à ce pouvoir la foi du malade. Donc si la foi manque, eh bien, notre Seigneur ne fera pas le miracle. Vous allez me dire, mais cette foi dépend du bon Dieu. Oui, c'est vrai. C'est là, encore une fois, le grand, grand mystère, c'est que la foi vient de Dieu. C'est Dieu qui met la foi dans une âme. Et c'est par cette foi que Dieu a mis dans son âme, que Dieu va pouvoir par la suite faire un miracle en faveur de cette personne. Seulement, cette foi que Dieu a mis dans une âme n'est pas imposée par Dieu. Elle respecte la libre acceptation, si vous voulez, ou le refus de cette personne. C'est quelque chose de très mystérieux, mais c'est comme ça. Versets 7 à 13 du chapitre 6. Alors Jésus appela les 12, il se mit à les envoyer deux à deux et leur donna puissance sur les esprits impurs. Et il leur commanda de ne rien prendre pour le chemin, si ce n'est un bâton seulement, ni sac, ni pain, ni argent dans leur bourse, mais de chausser leurs sandales, de ne pas revêtir de tunique. Et il leur disait, dans quelque maison que vous entriez, demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et lorsqu'on ne voudra pas vous recevoir ni vous écouter, sortez de là et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Étant donc parti, il prêchait, confit pénitence et il chassait de nombreux démons, et il oignait d'huile de nombreux malades et les guérissait. Donc voilà ce que disent les pères, on est à la page 2 donc du polycopier. Donc au chapitre 6, juste après les versets 7 à 13, le Seigneur donc envoie les apôtres 2 à 2. Alors, beaucoup de pères vont expliquer justement pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ n'envoie pas les apôtres seuls. Bien parce que tout simplement, ces apôtres qui sont envoyés deux par deux, ce chiffre 2 représente la charité. Et ce précepte de la charité a un double objet, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et parce que ces deux choses ne sont pas séparables, eh bien, et parce que justement il faut qu'il y ait deux termes pour que la charité puisse avoir lieu, disent les pères, notre Seigneur pardon, va envoyer donc ses apôtres deux par deux. Et donc, il enseigne par là, disent les pères, que celui qui n'a pas la vertu de charité pour le prochain ne doit en aucune façon se charger du ministère de la prédication. N'oublions pas que la vertu de charité, c'est l'état de grâce, j'ai déjà expliqué ça très souvent, mais la vertu de charité se manifeste d'abord par l'amour de la vérité. Donc, celui qui n'a pas l'amour de la vérité, celui qui ne recherche pas la vérité, ne peut pas avoir la charité, et donc sera incapable justement de recevoir la foi, puisque la charité ne peut pas exister dans une âme sans qu'il y ait la foi auparavant. La charité est comme le toit d'une maison, et pour que ce toit puisse tenir, il faut qu'il y ait deux piliers qui soutiennent le poids, le poids du toit, le poids de la charité. Ces deux piliers sont les vertus de foi et d'espérance. J'ai déjà expliqué ça très souvent, mais il faut que ça soit clair, que la vertu de foi et d'espérance peuvent exister sans la charité, c'est-à-dire qu'on peut avoir les deux piliers sans toit, mais on ne peut pas avoir un toit sans pilier. Donc la foi et l'espérance peuvent exister sans la charité, mais la charité, qui est représentée par le toit, ne peut exister sans le soutien de la foi et de l'espérance. Saint Thomas d'Aquin explique que Pardon. Lorsque les deux piliers ne soutiennent pas de toi, c'est quand il manque la charité, la foi est toujours là, mais elle est informe. Il appelle ça une foi informe, et une foi qui n'est pas vivifiée par la vertu de charité, un peu comme une foi informe peut être comparée à une branche d'arbre qui ne reçoit plus la vie de la sève. Elle est toujours sur l'arbre, toujours attachée au tronc, mais la sève ne monte plus dans les branches. Et donc, on le voit tout de suite parce que cette branche va se dessécher, ne donne plus de feuilles, ni de fleurs, ni de fruits, et va finir par, au moindre coup de vent, va finir par se couper de l'arbre, se couper du tronc, et donc mourir définitivement. Alors, les pères de l'Église vont analyser justement ce texte que je viens de vous lire, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui est représenté par ce bâton, la bourse, les tuniques, le sac, le pain, etc. Je répète le texte. Jésus leur commanda de ne rien prendre pour le chemin, si ce n'est un bâton seulement, ni sac, ni pain, ni argent dans leur bourse, mais de chausser leurs sandales et ne pas revêtir de tunique. Alors voyons ce que disent les pères sur ce sujet. Ainsi, en disant pas même un bâton, il exclut jusqu'aux moindres choses et veut que l'on comprenne qu'en vertu du pouvoir qu'il leur est donné, et qui est figuré par le bâton, aucune des choses qu'il leur défend de porter ne leur fera défaut. Donc, le bâton a toujours été un symbole d'autorité. C'est pour ça que l'évêque a une crosse qui est recourbée à son extrémité supérieure, pour bien montrer que le pouvoir de l'évêque est limité à son diocèse. Alors qu'au contraire, le pape a une crosse également, c'est un signe de son autorité, mais sa partie supérieure est droite, verticale, sans courbure, sans volute, parce que son pouvoir est universel. Alors, la chaussure qui doit laisser le pied du prédicateur découvert par-dessus et protégé par-dessous, n'oubliez pas que les chaussures des anciens en Palestine étaient des sandales, hein. Et donc, elle signifie que l'évangile ne doit ni rester caché, ni s'appuyer sur les avantages de la terre. Le dénuement de la chaussure montre le dénuement, si vous voulez, qui doit être dans l'âme, qui doit compter beaucoup plus sur Dieu que sur lui-même. Alors, Saint Bède le Vénérable va expliquer que dans le sens allégorique, je vous rappelle ce que ça veut dire, le sens allégorique, ça veut dire que un passage de l'Ancien Testament va représenter quelque chose qui va se passer dans le Nouveau Testament. Donc un mot a une signification qui représente autre chose. Donc la besace dont parle le texte sacré, la besace représente les charges et les embarras du siècle. Le pain, les délices de la terre, et l'argent dans la bourse, la sagesse qui reste cachée. Pourquoi ? Parce que l'argent n'est pas tenu à l'air libre, mais elle est cachée dans un sac. Bon. Et voilà la traduction par les pères de l'Église. Celui qui est revêtu des fonctions de docteur, donc celui qui a le bâton, qui a l'autorité, ne doit ni plier sous le poids des affaires du siècle, ça c'est la besace, ni se laisser amollir par les désirs de la chair, c'est le pain, ni cacher le talent de la parole qui lui est confié sur la négligence d'un corps livré à l'oisiveté. C'est la bourse. Oui. Donc cela représente que, explique que celui qui prêche la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ doit être dégagé du poids des obligations de ce monde. C'est pour cela que le prêtre, qui n'appartient qu'à Dieu, qui est tout à Dieu, doit être libéré justement des obligations d'une famille, et ce qui explique le vœu de chasteté qui est demandé à tous les religieux. Alors les pères vont expliquer ensuite les d'autres détails qui sont importants. L'huile, les gens de l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ souvent se oignaient d'huile. Cette huile repose le corps fatigué. Elle produit tout à la fois la lumière et la joie. L'huile de l'onction figure donc la miséricorde de Dieu, la guérison des infirmités, la lumière du cœur, toutes choses qui sont le fruit de la prière. Donc cette huile qui brûle, l'huile a la possibilité de guérir, mais en même temps de chauffer les aliments, et puis en même temps, elle donne de la lumière. Donc elle représente le travail de la grâce dans une âme. Elle représente encore donc la grâce du Saint-Esprit qui nous fait passer des fatigues du travail à la lumière, à la joie de l'Esprit. Alors vous allez me dire, mais le texte de l'Évangile que l'on commente actuellement n'a pas ce terme d'huile. On suppose tout simplement que dans le sac, si vous voulez, que portaient les pèlerins, il y avait de l'huile. Et c'est pour ça que les pères en parlent à cet endroit-là. Ainsi, il est admis comme certain que c'est des apôtres eux-mêmes que l'Église a reçu la coutume d'oindre les énergumènes et les malades avec de l'huile consacrée par la bénédiction pontificale. Ainsi, Sainte Geneviève guérissait les malades par le moyen d'une huile bénie par les prêtres. On trouve ça dans plusieurs lieux d'apparition connus par l'Église, par exemple Notre-Dame du Lot, Benoît Trancurel, qui a vu la Très Sainte Vierge Marie pendant, je crois, 51 ans, pratiquement tous les jours, eh bien, bénissait souvent les malades avec l'huile du sanctuaire. Et on retrouve cette bénédiction qui est faite parfois par des laïcs. Alors, attention, cette bénédiction n'a rien à voir avec le sacrement de l'extrême-onction, qui est une bénédiction qui ne peut être faite que par le prêtre. Seul le prêtre a juridiction et pouvoir, plus exactement, de donner le sacrement de l'extrême-onction. Donc, les bénédictions qui étaient faites, par exemple, par... ici, il donne l'exemple de Sainte Geneviève, qui guérissait les malades. C'est un miracle. Mais ce n'est pas le sacrement de l'extrême-onction. Alors, quelques pères sont allés jusqu'à penser que cette onction avec l'huile, on parle ici des pères, est la même dont parle Saint Jacques dans son épître, et que l'extrême onction fut déjà à cette époque instituée par le Christ et que les apôtres la conféraient sur les malades alors qu'ils n'étaient pas encore ordonnés prêtres. Mais cette opinion semble peu probable, disent les pères. Pourquoi ? Parce que il rappelle que le prêtre seul est le ministre du sacrement de l'extrême onction. Mais les apôtres ne seront ordonnés qu'au soir du Jeudi Saint, donc juste avant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous rappelle aussi que l'extrême onction ne peut être valide que, d'abord, si elle est administrée par un prêtre, il faut l'huile d'extrême onction, et il faut qu'il y ait danger de mort pour la personne qui reçoit le sacrement. Donc l'extrême onction donnée à quelqu'un qui n'est pas en danger de mort est absolument invalide. Les apôtres oignaient toutes sortes de personnes, y compris celles qui n'étaient pas baptisées et qui n'étaient pas mourantes. Or, l'extrême onction ne peut être donnée qu'aux baptisés en danger de mort. Donc les pères font bien une distinction entre ces bénédictions qui étaient faites par les apôtres. Vous voyez, c'est c'est au verset 13. Donc ils chassaient de nombreux démons. Et là, il est précisé qu'il oignait d'huile de nombreux malades et les guérissait. Vous voyez, donc, cette huile ici dont parle notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas forcément l'huile du sacrement de l'extrême-onction. Puisque, encore une fois, les apôtres n'étaient pas encore prêtres. Donc, cette huile était portée souvent par les apôtres. Pour des raisons naturelles et pour des raisons surnaturelles. Pour des raisons naturelles, parce que l'huile était utilisée, était portée dans les sacs pour oindre et rafraîchir les corps fatigués. Et en même temps, c'était utilisé par les apôtres pour faire des miracles avec cette huile. Mais ce n'était pas le sacrement de l'extrême onction, encore une fois, puisque le sacrement de l'extrême onction n'était pas encore institué par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, toutes les personnes, disent les pères, à leur ointe par les apôtres étaient guéries, Mais ce n'est pas le cas pour l'extrême onction qui se réfère d'abord à la santé, à la force des âmes. Le sacrement de l'extrême onction a pour but direct une aide surnaturelle pour l'âme, pour préparer l'âme à passer devant Dieu. Alors qu'au contraire, les onctions d'huile faites par les apôtres à ce moment de leur vie avaient pour but plus exactement un réconfort physique. C'était des maladies physiques qui étaient soignées par ces onctions d'huile. Donc, encore une fois, c'est bien une distinction avec le sacrement d'extrême onction. Il arrive que le sacrement d'extrême onction puisse provoquer une conséquence physique, puisse guérir des âmes qui ne se voient pas, mais aussi obtenir une guérison du corps. Ça arrive de temps en temps, mais c'est relativement rare. Par contre, il est de foi que le sacrement d'extrême onction, quand il est reçu par des gens qui sont correctement disposés, ce sacrement d'extrême onction va agir directement sur l'âme. Donc le sacrement d'extrême onction a une conséquence qui n'est pas vue visiblement. Encore une fois, ça prouve que ces bénédictions, les apôtres qui oignaient d'huile les gens qui étaient autour d'eux, qui venaient à eux pour demander des guérisons, n'étaient pas le sacrement d'extrême onction. Donc le Concile de Trente, c'est en bas de la page 2, déclare que le sacrement de l'extrême onction fut évoqué dans ce texte de Saint Marc, mais ne sera commandé et promulgué aux fidèles que par Saint Jacques, le cousin du Seigneur. L'onction dont parle Saint Marc ici n'était donc qu'un prélude de l'institution du sacrement de l'extrême onction, mais non le sacrement lui-même. L'onction de Saint-Marc était en fait le don des miracles accordé par le Christ aux apôtres afin de confirmer leur prédication. De la même manière, le baptême de Jean-Baptiste n'était que le prélude du sacrement de baptême. Donc le baptême de pénitence donné par Saint-Jean-Baptiste n'était pas le baptême d'eau donné par notre Seigneur Jésus-Christ, mais préparait les âmes à recevoir ce baptême sacramentel institué par notre Seigneur Jésus-Christ. De la même façon, les onctions d'huile faites par les apôtres étaient une préparation, si vous voulez, pour accepter l'enseignement de l'Église sur le sacrement de l'extrême onction qu'elle était instituée plus tard. Versets 14 à 16 du chapitre 6 de Saint-Marc. Or, le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre. Et il disait, Jean-Baptiste est ressuscité d'entre les morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Et d'autres disaient, c'est Élie. D'autres encore disaient, c'est un prophète, comme l'un des anciens prophètes. Ayant entendu cela, Hérode dit, ce Jean à qui j'ai fait trancher la tête, c'est lui qui est ressuscité des morts. Ici, ce Jean dont il est parlé, c'est Saint Jean-Baptiste. Vous savez que le Saint Jean-Baptiste est un des saints qui avait le plus, pour lesquels les peuples du Moyen-Âge, au moins en Europe, avaient la plus grande dévotion. On voit très bien dans les églises du Moyen-Âge, après la Sainte Vierge Marie évidemment, il y a un peu hors circuit, parce qu'elle est partout dans le Moyen-Âge, mais les deux saints qui avaient le plus de popularité, je dirais, après la Sainte Vierge Marie, c'était Saint Jean-Baptiste et Sainte Marie-Madeleine. Tout simplement parce que c'était des gens dans lesquels le peuple se retrouvait très facilement. Sainte Marie-Madeleine à cause de sa vie passée, donc on est tous des pécheurs, donc on se retrouvait parfaitement en Sainte Marie-Madeleine. Et Saint Jean-Baptiste, parce que justement Saint Jean-Baptiste avait cette grande simplicité qui faisait que les gens se retrouvaient en lui. Alors, je continue. Là, j'ai trouvé peu de commentaires dans les livres que j'ai travaillés, peu de commentaires sur ces parties-là. Peu de commentaires qui nous intéressent directement. Encore une fois, j'ai lu beaucoup de choses, mais soit Cornelius à Lapide, soit Saint Thomas d'Aquin, soit le Père Thirier, mais je n'ai mis sur le polycopier que les parties qui, à mon avis, sont plus importantes pour nous. Donc, je continue. Saint Marc chapitre 17 à 29. Hérode avait envoyé prendre Jean, c'était Jean-Baptiste, et l'avait enchaîné en prison à cause d'Hérodiade, femme de son frère Philippe qui l'avait épousée. Car Jean disait à Hérode, il ne vous est pas permis d'avoir la femme de votre frère. Or Hérodiade tendait des pièges à Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint, et il le gardait, faisant beaucoup de choses selon ses avis, et l'écoutait volontiers. Mais il arriva un jour opportun, à l'anniversaire de sa naissance, Hérode donna un grand festin aux grands, aux officiers, aux principaux de la Galilée, et la fille d'Hérodiade, étant entrée, ayant dansé, n'ayant plu à Hérode et à ceux qui étaient à table avec lui, le roi dit à la jeune fille, « Demandez-moi ce que vous voudrez et je vous le donnerai. » Et il fit ce serment, « Tout ce que vous me demanderez, je vous le donnerai quand ce serait la moitié de mon royaume. » Elle, étant sortie, dit à sa mère, « Que demanderai-je ? » Sa mère lui dit, « La tête de Saint Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de son serment et de ceux qui étaient à table avec lui, il ne voulut pas l'affliger par un refus. Il envoya donc un de ses gardes et lui ordonna d'apporter la tête de Jean sur un plat. Le garde le décapita dans la prison. Il apporta sa tête sur un plat et la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. L'ayant appris, les disciples de Jean vinrent et prirent son corps et le mirent dans un sépulcre. Il y a beaucoup de choses à tirer de ce passage de l'Écriture sainte. D'abord, de faire comprendre que nous ne sommes pas tenus par nos serments si les serments ne remplissent pas les principes de la moralité. C'est-à-dire, si je fais serment de commettre un péché, je ne suis absolument pas tenu par mon serment. C'est le cas ici avec Hérode. Donc Hérode n'était absolument pas tenu par son serment. Un autre point qui me semble important ici dans ce passage du chapitre 6, c'est que bien que nous sommes tout à fait au début de l'histoire du christianisme, on voit bien que déjà notre Seigneur Jésus-Christ va enseigner la sainteté du mariage chrétien et l'indissolubilité du mariage, même sur un plan purement naturel, hein, puisque Hérodiade et Philippe, le frère d'Hérode, n'était pas marié par un mariage chrétien, un mariage religieux, mais c'est un mariage naturel. Et donc un mariage naturel est indissoluble. Donc quand deux personnes, même qui ne sont pas chrétiennes, qui ne sont pas baptisées, s'unissent par un mariage naturel avec l'intention de garder ce contrat avec l'unité, l'indissolubilité et l'acceptation des enfants, c'est un contrat valide devant Dieu, même si c'est un mariage purement naturel. Et un mariage de ce genre est indissoluble. C'est pour ça que Saint Jean-Baptiste disait à Hérode, il ne vous est pas permis d'avoir la femme de votre frère. Alors attention, il faut tout de suite préciser que les catholiques, eux, sont tenus par les lois canoniques du mariage. Donc, deux catholiques qui ont un mariage, ne peuvent pas avoir un mariage purement naturel, c'est impossible. Donc parfois, on a des gens qui sont catholiques, qui sont baptisés, qui vous disent, ben voilà, vous voyez ce que vous venez de dire, monsieur l'abbé, c'est clair pour moi, donc je vis maritalement avec telle personne, je ne suis pas marié religieusement avec cette personne, mais j'ai accepté l'unité, l'indissolubilité des enfants, donc notre mariage est valide devant Dieu. Non, parce que les catholiques sont tenus à un mariage, pour ceux qui se marient, un mariage catholique devant le ministre officiel, le témoin officiel de l'Église catholique, à savoir le prêtre. Et donc, le sacrement de mariage est obligatoire pour des gens qui vivent comme mari et femme et qui sont baptisés. Par contre, des gens qui ne sont pas baptisés ne sont pas tenus par la loi canonique de l'Église. Il faut faire très attention lorsqu'on fait des enquêtes canoniques de bien vérifier justement que des gens qui ne sont pas catholiques n'ont pas été mariés avec un simple mariage naturel qui pourrait être parfaitement valide dans le passé. Lorsque j'ai fait l'enquête du mariage que je viens de faire ici, dont j'étais témoin ici, dont je viens de vous parler, eh bien, la personne que je baptisais n'était pas catholique, évidemment, puis c'est pour ça que je l'ai baptisé, eh bien, dans l'enquête, le prêtre doit vérifier que cette personne n'a pas été mariée, même civilement seulement, par un simple mariage naturel. Parce qu'un mariage de ce genre pourrait être absolument valide si les conditions du contrat sont là. Oui. Le troisième point qui me semble important dans ce texte du chapitre 6 de Saint Marc, c'est que la tête de Saint Jean-Baptiste fut le prix d'une danse. C'était le Saint Curé d'Ars qui avait une chapelle latérale dans son église à Ars, qui était la chapelle Saint Jean-Baptiste. Il avait fait mettre sur l'arche qui donnait dans cette chapelle Saint Jean-Baptiste, il avait fait graver, peindre plus exactement, sur l'arche la parole, la phrase, sa tête, en parlant de Saint Jean-Baptiste, sa tête fut le prix d'une danse. Et pour bien montrer justement qu'à cause de la concupiscence de la chair, eh bien, la danse peut être une source de péché épouvantable. Relisez les sermons du Saint Curé d'Ars sur le sujet, qui expliquent très bien que lorsque on rentre sur une piste de danse, en général, le démon prend la place de l'ange gardien, ce qui fait qu'il y a autant de danseurs que de démons sur la piste de danse très rapidement. Ceci dit, attention, encore une fois, il faut du bon sens. Si un époux et une épouse dansent ensemble, il n'y a pas de péché. Mais ça reste quand même ordinairement une occasion de péché qui est souvent prochaine, volontaire, occasion de péché mortel, à cause de l'ambiance générale qui règne dans ces milieux de danse, surtout dans le monde moderne. Parfois, ça arrive que les gens nous demandent, monsieur l'abbé, est-ce que je peux aller dans une boîte de nuit avec mon épouse pour passer la soirée, boire un verre dans une boîte de nuit. Bon, strictement parlant, il est possible d'aller dans un lieu comme ça avec son épouse et de ne pas commettre de péché mortel. Cependant, l'ambiance générale qui règne dans ces lieux-là fait que ce ne sont pas des places pour des catholiques, tout simplement. Alors voilà, voyons ce que disent les pères sur ce passage en bas de la page 3. Alors, ce qu'il faut noter, j'ai oublié de vous dire ça aussi, ce qu'il faut noter, c'est que la danse est encore plus dangereuse quand cette danse est associée au péché de gourmandise, surtout d'un manque de tempérance au niveau de la boisson alcoolisée. Donc si vous rajoutez ensemble la consommation d'alcool, l'excès de nourriture et la danse, ça fait vraiment un mélange détonnant. Voilà ce que disent les pères sur ce sujet. L'inclination voluptueuse d'Hérode le força de faire charger de chaînes celui dont il connaissait la justice et la sainteté, et nous pouvons apprendre de là qu'une faute moins grande conduit à une faute plus grave, selon cette parole de l'Apocalypse, que celui qui est souillé se souille encore davantage. Donc, très souvent, à cause, si vous voulez, de l'excitation des sens qui est provoquée dans les lieux où on danse, à cause de la fumée des cigarettes, à cause de l'obscurité, des lumières plus ou moins tamisées, ou au contraire des lumières très vives, toutes ces choses-là vont provoquer une excitation des sens qui vont laisser la porte ouverte à toute une série de péchés, dont certains peuvent être très graves. C'est pour ça que je pense qu'on peut vraiment dire qu'un catholique a le devoir grave d'éviter comme la peste ces lieux qui sont ordinairement des lieux de débauche. Donc un catholique n'a rien à faire dans une boîte de nuit, par exemple. Comment le Dieu Tout-Puissant peut-il abandonner d'une manière si terrible en ce monde ceux qu'il a choisis par une vocation si sublime avant tous les siècles? Alors, les pères vont expliquer, donc donnons une raison évidente pour la piété des vrais fidèles, c'est que Dieu éprouve ainsi ses élus. Là, il parle de Saint Jean-Baptiste. Dieu éprouve ainsi ses élus dans cette vie si fragile et si courte, parce qu'il sait comment il doit les récompenser dans les hauteurs des cieux. Il les laisse tomber extérieurement dans le mépris et l'abjection, parce qu'il les conduit intérieurement jusqu'aux biens incompréhensibles et immortels. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bon Dieu, qui sait très bien que notre récompense est dans les cieux, la récompense est après la vie, pas ici-bas, eh bien, va permettre qu'un certain nombre de catholiques passent par des épreuves parfois terribles, soit des tentations, soit des persécutions morales, même des persécutions physiques très fortes, parce qu'il sait qu'il va pouvoir les récompenser après. Et l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que Dieu qui sait tout, sachant que certaines personnes n'auront pas la gloire du paradis, parce qu'ils vont malheureusement mourir en état de péché mortel, Dieu étant Dieu, il sait tout, eh bien, le bon Dieu qui sait qu'il ne pourra pas récompenser telle personne par la gloire du paradis, eh bien, va donner à ces mêmes personnes, dès ici-bas, un certain nombre de biens matériels, parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas les récompenser avec les biens spirituels. Et c'est pour répondre à une objection qu'on entend très souvent, des gens qui nous disent « Mais comment se fait-il, monsieur l'abbé, que vos ennemis de l'Église semblent avoir tous les biens matériels possibles ?» Imaginez, pensez à tous ces gens extrêmement riches. On a l'impression que tout leur réussit sur le plan matériel, alors qu'ils vivent dans le péché. Eh bien, c'est plutôt un mauvais signe. Quand tout nous réussit sur le plan matériel, en général, j'ai dit en général, ça veut dire qu'on vit un tas de péchés mortels. Au contraire, lorsque les épreuves sont là, c'est souvent un signe que le bon Dieu nous prépare par ses purifications à aller au ciel. Donc ne soyez pas étonnés si le bon Dieu permet des épreuves physiques parfois très fortes. Il purifie ses âmes de cette façon, soit par des épreuves physiques, soit par des épreuves encore plus dures d'ailleurs, des épreuves qu'on appelle la nuit des sens, puis la nuit de l'esprit, c'est-à-dire des purifications intellectuelles, des purifications de l'âme, pour que l'âme soit de plus en plus propre avant d'arriver au ciel. Il y a d'abord l'étape qu'on appelle la nuit des sens, qui se place entre la vie purgative et la vie illuminative. Cette purification des sens, si vous voulez, va couper l'âme de toute consolation sensible. Et ensuite, il y a une deuxième purification, on voit très bien ça dans la vie des saints, qui va, elle, s'établir au passage de la vie illuminative à la vie unitive, ou à la vie mystique, ce qu'on appelle la nuit de l'esprit. C'est une purification intellectuelle, cette fois-ci, après avoir purifié les sens, supprimé les consolations sensibles, ben Dieu va aussi supprimer, chez certains saints, il va supprimer complètement les consolations intellectuelles, les consolations de la foi. C'est pour ça qu'on trouve chez certains saints, prenez le cas par exemple de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, des abandons terribles. On a l'impression, Sainte Thérèse avait l'impression d'être dans un tunnel. Elle ne voyait plus rien, elle ne savait plus du tout où elle allait, elle avait l'impression d'avoir perdu la foi, elle avait l'impression de ne plus croire en rien du tout, mais elle s'accrochait, et elle voyait au fond du tunnel un petit point lumineux, elle savait qu'il y avait une sortie au tunnel. N'oublions pas que c'est pas parce qu'on vit dans les tentations, quand on ne va pas les chercher soi-même, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ait un tel péché mortel. Rappelez-vous les tentations de Sainte Catherine de Sienne, qui a pu résister à ses tentations alors que son âme était infectée, pensait-elle, de pensées épouvantables contre toutes les vertus. Elle appelait notre Seigneur Jésus-Christ à son secours, il ne venait pas, et en fait, notre Seigneur lui a révélé ensuite qu'il était à l'intérieur de l'âme de Sainte Catherine de Sienne, et c'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ était à l'intérieur de cette âme qu'elle a pu résister aux tentations. Donc concluons de là, en haut de la page 4, sur le polycopier, concluons de là combien souffriront dans la vie future ceux que Dieu réprouve s'il abandonne à des tourments si cruels ceux qu'il aime. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, permet parfois des épreuves terribles à ceux qu'il aime. Et en général, on peut même dire que plus on suit notre Seigneur Jésus-Christ, plus on aime notre Seigneur Jésus-Christ, plus il faut prouver notre amour pour lui en portant la croix. Rappelez-vous la phrase de Sainte Thérèse d'Avila, « Mon Dieu, quand je vois la façon dont vous traitez vos amis, c'est pas étonnant, vous en ayez si peu. » Mais Saint-Pierre d'Alcantara, le grand ami de Sainte Thérèse d'Avila, il lui est apparu après sa mort, il est apparu à Sainte Thérèse en lui disant « Oh, bienheureuse pénitence qui m'a valu une telle récompense. » Donc le bon Dieu permet parfois des épreuves terribles, des abandons terribles. On voit ça chez beaucoup de saints. Ils sont abandonnés par tout le monde. C'est bien pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ dit bien que nul n'est prophète dans son pays. Eh bien, il permet parfois des abandons terribles pour purifier ses âmes. Et il vaut mieux être purifié ici-bas que d'être purifié au purgatoire. Parce que les purifications du purgatoire sont bien plus rigoureuses que les purifications d'ici-bas. C'est pour cela, encore une fois, que ceux qui ont en général trop de facilité ici-bas, trop d'aisance financière, sont en général des gens qui vont avoir du mal à vivre un tas de grâces. Attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que c'était un péché d'avoir une certaine aisance financière. Je connais des gens qui ont une certaine aisance financière, qui méritent d'ailleurs, parce qu'ils ont travaillé comme des brutes pendant toute leur vie, ils arrivent à une certaine aisance financière, c'est pas dit pour ça qu'ils sont en état de péché mortel. C'est pas ce que je dis. Mais, quand il y en a trop, il y a trop de richesses, c'est en général un mauvais signe. Il est presque impossible pour quelqu'un d'avoir vraiment des fortunes, des millions, et de vivre en état de grâce. Est-ce qu'il est possible pour un millionnaire d'être en état de grâce? Je ne sais pas. Mais à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas de patron, saint patron pour les millionnaires. Hein. C'est quand même dangereux. Alors, la décapitation de saint Jean-Baptiste signifie la diminution de cette croyance répandue parmi le peuple qu'il était le Christ, de même que l'élévation de Jésus-Christ sur la croix figurait le progrès toujours croissant de la foi. Rappelez-vous la phrase de saint Jean-Baptiste, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Celui qui doit croître, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui doit diminuer, c'est saint Jean-Baptiste. Donc saint Jean-Baptiste amène à notre Seigneur Jésus-Christ, il amène ses disciples à notre Seigneur Jésus-Christ. Les disciples de saint Jean-Baptiste vont découvrir notre Seigneur Jésus-Christ, à commencer par saint Pierre, Saint André, Saint Jacques et Saint Jean, les premiers disciples de Saint Jean-Baptiste, qui vont aller vers notre Seigneur Jésus-Christ et qui, à la suite de cette découverte du Messie, vont littéralement abandonner Saint Jean-Baptiste pour suivre notre Seigneur. Eh bien, contrairement à ce que nous aurions peut-être nous fait, eh bien, Saint Jean-Baptiste n'est pas découragé pour autant. Il savait que son rôle, c'était d'être un pont pour amener notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois que les âmes avaient passé ce pont, était passé dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, et bien saint Jean-Baptiste avait rempli sa fonction, ses obligations, et pouvait se retirer. Alors, c'est pas facile, hein. J'avoue qu'en tant que prêtre, j'ai parfois du mal de me rendre compte que le bon Dieu nous utilise simplement comme des instruments. Et puis, quand il n'a plus besoin d'instruments, il laisse tomber un petit peu l'instrument. Alors on en voudrait parfois, en tout cas moi c'est mon cas, parfois avoir un petit peu des sentiments de la part des gens, d'avoir un peu de reconnaissance, et bien bon Dieu permet parfois qu'il n'y ait pas de reconnaissance du tout, pour purifier justement notre volonté, pour que le prêtre ne s'attache pas à sa volonté propre. On ne travaille pas pour soi-même, on travaille pour les âmes. Et parfois j'ai remarqué que le bon Dieu permet aussi qu'il y ait des conversions extraordinaires qui se fassent. Donc j'ai été peut-être l'instrument au moins au début, mais je ne suis pas au courant. Je ne le sais pas. Bien, le bon Dieu permet que telle personne, par exemple, qui a fait une retraite avec moi, j'ai l'impression, j'ai plusieurs fois un cas comme ça, des gens qui ont fait des retraites avec moi, l'exercice Saint-Ignace, j'ai eu l'impression, humainement parlant, que la retraite n'avait rien provoqué du tout. C'est passé comme l'eau sur les plumes d'un canard, comme on dit vulgairement, et que malheureusement, ma retraite avait été tout à fait sans fruit avec cette âme. Alors j'étais pas content parce que je me disais quand même, c'est dommage, j'ai fait tout ce que j'ai pu et puis il n'y a rien qui arrive. Et parfois je me suis rendu compte que des années après, cette personne s'était convertie et avait changé de vie, était devenue une bonne catholique. Et en général, je ne le savais pas. Et je découvrais parfois des années après. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le bon Dieu, justement, préparait ces choses-là pour me protéger de l'orgueil. Parce que si je savais le nombre de conversions réelles qui sont faites par mon intermédiaire, le prêtre n'est qu'un instrument, je pourrais tomber dans l'orgueil. Donc le bon Dieu permet parfois que je ne sois pas au courant, mis au courant de certaines conversions. Bon, dans d'autres cas, au contraire, on sent que le bon Dieu, de temps en temps, bon, mais s'il juge qu'il faut remonter un petit peu le moral des troupes, comme on dit, eh bien, va permettre que telle personne après sa conversion, remercie la personne qui a été l'instrument de cette conversion, et ça aide. C'est vrai que on n'est pas simplement des âmes, on est aussi des âmes liées à des corps, et que parfois d'avoir des remerciements de certaines personnes aide, peut aider aussi, nous encourager à continuer le travail. Mais on travaille pour notre Seigneur Jésus-Christ, on ne travaille pas pour nous. Et là, on le voit très bien dans l'attitude de Saint Jean-Baptiste. Alors, donc, la décapitation de Saint Jean-Baptiste signifie la diminution, justement, de la foi et l'élévation, en même temps, de Jésus-Christ sur la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit sur la croix, quand je serai élevé, il l'a dit en parlant de cette croix, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ va être élevé sur la croix, il va monter au calvaire pour amener les gens à lui. Alors qu'au contraire, Saint Jean-Baptiste va littéralement complètement disparaître. On voit très bien dans la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ, on n'entend plus parler de Saint Jean-Baptiste. Parce qu'il a rempli sa fonction et ensuite il disparaît littéralement jusqu'à ce qu'il meure martyr, tué par Hérode. Celui que la multitude ne regardait que comme un prophète, notre Seigneur Jésus-Christ, fut bientôt reconnu par tous comme le Fils de Dieu lui-même. Et c'est peut-être pour cela que Jean-Baptiste, dont la réputation devait décroître, est né à cette époque de l'année où la lumière du jour commence à décroître, tandis que notre Seigneur Jésus-Christ est venu au monde à l'époque où les jours commencent à croître. Notre Seigneur Jésus-Christ va naître au solstice d'hiver, alors que Saint Jean-Baptiste va naître au solstice d'été, donc au mois de juin, alors que notre Seigneur va naître au mois de décembre. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ naît au moment précis où la longueur des jours va commencer à s'accroître et la longueur des nuits va commencer à décroître, alors qu'au contraire, Saint Jean-Baptiste va naître à un moment de l'année où les jours vont commencer à décroître et la longueur des nuits va commencer à croître. Pour bien montrer que notre Seigneur Jésus-Christ va venir, en quelque sorte, va monter sur les épaules littéralement de Saint Jean-Baptiste, qui va diminuer pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse croître. Donc, dans le sens mystique, Hérode, dont le nom signifie « qui est de peau », fait de peau, représente le peuple juif, qui avait aussi une épouse, c'est-à-dire la vaine gloire, dont la fille danse et s'agite encore aujourd'hui autour de l'esprit des Juifs, et je veux parler de la fausse interprétation des Écritures. Donc, Salomé, la fille de d'Hérodiade, qui danse pour Hérode, qui fait cette danse sensuelle, va représenter le peuple juif, donc justement, qui se préoccupe beaucoup trop des choses extérieures et pas assez des choses intérieures. Donc, ils ont décapité Jean, Hérode va décapiter Jean, c'est-à-dire la parole des prophètes, et ils ont maintenant la parole privée de Jésus-Christ qui est son chef. Alors, d'autres explications données par les pères, je m'excuse, c'est parfois mes textes n'ont pas toujours un lien entre eux parce que ces textes sont pris en différents endroits. Donc, selon Saint Jérôme, la tête de la loi, c'est-à-dire Jésus-Christ, est retranchée de son corps, c'est-à-dire du peuple juif. Elle est donnée à une jeune fille qui vient des gentils, c'est-à-dire à l'église romaine. Et la jeune fille la donne à sa mère qui vit dans l'adultère, c'est-à-dire à la synagogue qui doit embrasser la foi à la fin du monde. Donc Saint Jean-Baptiste va être décapité. Et le martyr de Saint Jean-Baptiste va être également le symbole de la conversion de beaucoup. Malheureusement, Hérodiade ne va jamais se convertir. Salomé, je ne sais pas, pas du tout sa vie, mais Hérodiade va très mal terminer. Elle dansait sur la glace d'une rivière qui s'appelait Sicoris. Et elle tomba à travers la glace et elle périt décapitée misérablement par la glace. On dit que sa tête a dansé sur la glace après être décapitée. Ben, pour rappeler justement que cette maîtresse incestueuse avait obtenu la décapitation de Saint Jean-Baptiste. Donc Hérode et sa maîtresse incestueuse donc, furent bannis en Gaule, d'abord et ensuite en Espagne, donc à Lierda, En bas, vous avez ces renseignements en bas de la page 4. Alors continuons les explications des pères de l'Église. Donc, le corps de Saint Jean-Baptiste est enseveli, sa tête est mise dans un bassin, la lettre qui vient des hommes est recouverte et l'Esprit reçoit sur l'autel l'adoration des fidèles et devient leur nourriture. Donc, les pères vont expliquer que Hérode a donc, en vivant en concubinage avec Hérodiade, donc la femme légitime de son frère Philippe, et contre sa volonté, commis un triple péché, l'adultère, l'inceste et la violence. L'inceste parce qu'il est allé épouser la femme de son frère. Vous savez que la tête de Saint Jean-Baptiste, donc, et au moins l'os frontal de la tête de Saint Jean-Baptiste, a été conservée et conservée dans la cathédrale d'Amiens. C'était toute la fortune de la cathédrale d'Amiens. cette relique insigne de Saint Jean-Baptiste a permis justement à l'évêque d'Amiens, autant la construction de la cathédrale, avec tous les dons des gens qui venaient prier devant la tête de Saint Jean-Baptiste, a permis avec tous ces dons de construire la magnifique cathédrale d'Amiens. Donc ce mariage incestueux, disent les pères, prit place la 15e année de Tibère César, quand Saint Jean-Baptiste commença à prêcher. Mais Philippe, lui, le frère donc de Hérode, ne mourut que la 20e année de ce même règne. Et Joseph précise que Philippe était un homme juste et modeste. Bon, Joseph, attention, ce n'est pas un père de l'Église, hein, c'est un historien. Donc tous les pères, par contre, accusent Hérode d'adultère, car il prit pour lui la femme de son frère Philippe, alors qu'il était encore vivant. Alors, selon certains pères, mais ce n'est pas le sens général des pères, certains pensent que tout fut organisé à l'avance entre Hérode et Hérodiade, pour qu'Hérode ait un prétexte pour faire disparaître Saint Jean-Baptiste. C'est pour cette raison que le Christ l'appelait un renard. C'est certains pères qui en parlent. Pourquoi ? Parce qu'Hérode désirait lui-même la mort du prophète, mais n'osait pas le faire par crainte du peuple qui le considérait comme un saint homme. Donc Saint Jean-Baptiste fut donc une victime de la chasteté, comme martyr, ainsi que les saints Paul, saint Matthieu, saint Clément, beaucoup d'autres. Donc il y a toute une série de perles à la couronne de Saint Jean-Baptiste. Il est docteur, il est vierge, il est martyr, il est prophète, il est ermite, il est apôtre, il est précurseur, il est indicateur et baptiseur du Christ. Il y a beaucoup sur sa carte de visite. Voilà, nous allons arrêter là. Nous continuerons, si Dieu veut, la prochaine fois, avec la page 5. Donc, nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il, nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.